outil de partage.
Idée proposée par Pierre-Édouard Deldic tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.
RFI 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Le journal avec Pierre Boudias, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Confusion autour du sort de Bukavu. L'incertitude demeure sur la situation dans la capitale du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Les combattants du M23 ont été aperçus dans la ville où les habitants vivent dans l'anxiété. Nomination surprise à la présidence de la Commission africaine. Le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf a déjoué les pronostics pour s'imposer à la tête de l'organisation. Le portrait de cet habitué des arcanes de l'UA dans cette édition. Il était devenu en quelques heures un symbole des violences faites aux femme au Cameroun, le jet-setter Hervé Bopta, mis en cause par des dizaines de victimes début 2024. Un an après, le travail judiciaire semble au point mort, vous l'entendrez. Et puis l'avenir de Madagascar passe-t-il par le riz hybride? C'est en tout cas le pari du gouvernement qui mise sur de nouvelles pousses pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le dossier d'Afrique Matin nous emmène sur la Grande Île. Situation toujours confuse à Bukavu, la capitale du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, fait face à une nouvelle avancée des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Si des éléments de la milice ont été aperçus dans la ville, si cette dernière appelle les habitants à s'organiser, la direction du groupe armé ne revendique pas officiellement la conquête de la capitale provinciale. Une incertitude qui plonge les habitants de la ville dans l'anxiété. Exemple avec ce riverain du centre de Bukavu, il assure n'avoir été témoin d'aucun combat, mais évoque des tirs sporadiques qui se sont poursuivis toute la journée d'hier.
Il y avait des coups de base, mais on a appris au courant de la journée que c'était plutôt des jeunes qui avaient pu prendre des armes et qui se sont mis à tirer afin de pouvoir faciliter des pillages pour eux-mêmes. J'ai reçu des témoignages des gens qui ont vu leur boutique pillée. Donc jusqu'à maintenant, à 23h, on ressent encore quelques coups de balle. Donc on espère que lorsque l'ordre pourra intervenir, que cette situation pourra cesser. Heureusement que l'électricité fonctionne, l'eau courante aussi fonctionne. On a accès au réseau téléphonique, même à la communication 4G, même s'il y a des perturbations. C'est vrai qu'on s'était préparé, on avait acheté des piles. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'interruption du courant. On avait fait aussi des provisions d'eau. On prétend que les forces de l'ordre régulière, les FARDC, seraient en train de rentrer et que, bon, les forces du M23 sont en train de quitter. Mais d'autres ont dit que ça serait une digression. Il est difficile pour le moment de tirer tout ça au clair.
Un des propos recueillis par Amélie Tullet. Alors comment expliquer ce flou entretenu par le mouvement M23 AFC qui n'exprime pas officiellement sa volonté de contrôler Bukavu? Pour Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, c'est sans doute parce que la ville n'est pas un objectif en soi, mais une étape pour le groupe armé dans sa progression aux côtés des forces rwandaises. On l'écoute.
Peut-être qu'ils ne comptent pas s'arrêter à Bukavu et ils comptent continuer leur progression ailleurs. Soit ils s'arrêtent là parce qu'ils n'ont pas assez d'effectifs pour continuer, pour aller plus loin, parce que évidemment entre leur point de départ au nord Kivu et puis là où ils sont maintenant, ça fait quand même beaucoup de territoire. Soit ils descendent sur Uvira. Donc ils continuent pour apprendre la partie utile de la province du Sud Kivu, je veux dire. S'ils descendent vers Uvira, ils arrivent à la frontière du Burundi. Et donc, en effet, avant ça, il y a des troupes burundaises. Et donc, ça serait extrêmement menaçant pour le gouvernement burundais.
Avec quel risque potentiel à ce moment-là?
Ah ben là, des vrais affrontements avec les troupes burundaises, parce que apparemment, elles n'ont pas vraiment combattu au niveau de Kavumu et de Bukavu. Donc là, par contre, je pense qu'il y aurait des vrais combats.
Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI, une nouvelle offensive, en tout cas dénoncée par l'Union européenne, qui assure que la violation de l'intégrité territoriale de la RDC ne restera pas sans réponse. Le président français Emmanuel Macron appelle de son côté au cessez-le-feu immédiat et au retour des autorités civiles et militaires congolaises à Bukavu. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, met lui une nouvelle fois en garde contre une possible escalade régionale. Message envoyé à la tribune du sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est ouvert hier à Addis Abeba. La capitale éthiopienne qui a connu hier le premier moment fort de cette réunion continentale, élection du nouveau président de la commission de l'organisation en remplacement de Moussa Faki Mahamat, dont le second mandat se termine en mars. Un scrutin qui a réservé une petite surprise, c'est le candidat djiboutien Mahamad Ali Youssouf qui l'a emporté sur le favori kényan Raila Odinga. Le portrait de cet outsider de 59 ans avec Clotilde Hazard.
Mahmoud Ali Youssouf est un diplomate de carrière. Il parle trois langues, l'arabe, l'anglais et le français. Ministre des Affaires étrangères depuis 20 ans, le politicien est un habitué des arcanes de la diplomatie, qui plus est dans une région d'Afrique touchée par le terrorisme et les conflits. Décrit comme un homme droit et rigoureux, mais aussi dynamique par ses proches, Mahmoud Ali Youssouf n'aspire pas à devenir un chef d'État et présente donc un profil plus neutre, dédié à sa mission, davantage qu'à ses ambitions personnelles. Le chef de la diplomatie djiboutienne a su montrer son engagement au sein de l'IGAD pour résoudre le conflit au Soudan, un dossier qu'il connaît bien. En juillet dernier, il avait présidé la retraite des médiateurs en préparation de pourparlers. L'événement avait réuni les représentants de l'IGAD, de l'UA, de l'ONU et de l'Union européenne, ainsi que de nombreux États du monde entier. Il a su s'y forger une image de négociateur crédible sur la scène mondiale. Sa responsabilité est immense pour les quatre prochaines années. Il aura pour mission de redonner à l'UA une crédibilité bien entamée sur un continent secoué par les conflits. Clotilde Hazard, Addis Abeba, RFI.
Et au micro des envoyés spéciaux de RFI à Addis Abeba, le Kenyan Raila Odinga a reconnu sa défaite et salué le fonctionnement démocratique de l'organisation. Autre candidat malheureux, le malgache Richard Randriamandrato appelle le président élu à réformer l'UA pour lui permettre de mieux accompagner la croissance du continent. À noter que le djiboutien Mahmoud Ali Youssouf sera accompagné à la vice-présidence, par l'Algérienne Selma Haddadi. Le Gabon lit son avenir électrique à celui d'une société turque. Les autorités gabonaises ont signé hier une convention de fourniture de courant avec l'entreprise Car Powership. La méthode utilisée est originale. Deux bateaux usines ont accosté à Libreville en mai dernier. Ils doivent permettre de répondre à la demande des foyers gabonais. Et si le contrat jugé dans un premier temps trop cher a été renégocié, des doutes persistent sur la fiabilité de l'énergie produite par ces navires. Depuis la capitale gabonaise, Yves-Laurent Gomard.
Trois ministres gabonais ont interrompu leur week-end pour signer la convention. Parmi eux, le ministre de l'énergie, Séraphin Akouré Davin, qui soutient que l'accord est une solution d'urgence pour soulager les populations.
Pendant près d'une quinzaine d'années, nous n'avons pas entretenu nos équipements. Nous n'avons pas renouvelé notre parc énergétique. L'accord que nous signons aujourd'hui, c'est l'extrême urgence.
Les bateaux-usines de Car Powership vont dans un premier temps produire l'électricité avec le fioul lourd ou le gasoil. Ces deux combustibles coûtent cher et sont très polluants. Ali Aydjahes, directeur des opérations de la société turque, rassure.
Nous sommes prêts à fonctionner avec du gaz, mais je peux vous rassurer aujourd'hui qu'on doit se concentrer sur le succès où on est, qu'on doit se féliciter de cette solution qui est enfin prête à donner la réponse attendue par la population. Progressivement, on va commencer à résoudre les problèmes de délestage et en espérant dans le très court terme donner la réponse définitive et améliorer la situation actuelle à Libreville.
Pour le moment, l'on ne parle pas d'une éventuelle augmentation de la facture chez les consommateurs. Le gouvernement soutient qu'il poursuit les investissements pour sortir rapidement de la situation d'urgence actuelle. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
RFI, il est 7h38 à Yaoundé. Les suites d'une affaire qui avait défrayé la chronique au Cameroun maintenant. Celle qui entoure Hervé Botpa, jet-setter habitué des bars, restaurants et boîtes de nuit de luxe. Début 2024, cet inconnu du grand public se retrouve mis en cause dans des dizaines de témoignages anonymes relayés par un internaute en exil dont les publications sont très suivies dans le pays. Des femmes, principalement, l'accusent de viol, de violence, de menaces avec armes. L'affaire prend alors de l'ampleur. Fin janvier 2024, il est arrêté dans un hôtel de Douala placé en détention provisoire. Et puis le soufflet retombe. Un an après, le juge d'instruction n'a pas encore donné d'indication sur les suites qu'il compte donner à l'affaire. Entre-temps, Hervé Botpa, lui, est sorti de prison à Méditulèche.
Libre depuis 6 mois, sorti mi-août dernier, une liberté provisoire accordée par le juge qui n'a pas clos son instruction. Ni non-lieu, ni renvoi en jugement, l'affaire est en suspens parce que le dossier est vide, selon Roland Ojong Achou, avocat de Hervé Botpa.
Si vous n'avez plus entendu parler de l'affaire, c'est qu'il n'y avait rien à dire. Ce n'était que des allégations sans fondement pour nuire à la réputation d'un innocent.
La thèse de la calomnie orchestrée, l'internaute à l'origine du buzz, connu sous le pseudo Nzimanto, la rejette.
Les propos de son avocat, ça s'inscrit un peu dans ce siège-là, en fait. On est jaloux de lui, c'est la diffamation, c'est important. Les victimes, elles ont reçu des menaces et des menaces et des menaces.
Diffamation ou affaire étouffée par des pressions, sans vérité judiciaire, on reste dans le flou, déplore Cyril Roland-Béchon, directrice de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme.
Cette affaire, comme beaucoup d'autres affaires au Cameroun qui défraient parfois la chronique, s'arrête comme ça parce que le pouvoir judiciaire n'est pas assez fort, pas assez indépendant pour aller au bout, n'est-ce pas, des procédures et pour justement dans une logique de protection de la société camerounaise. Mais malheureusement, c'est là où on en est au Cameroun.
Comment une affaire aussi grave peut-elle se retrouver ainsi dans les limbes? Pour Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir, la société civile manque de moyens pour suivre ses affaires au long cours et maintenir la pression sur le pouvoir judiciaire.
L'ancien premier ministre mauricien a passé la nuit en cellule. Pravin Jugnauth, interpellé hier, est mis en cause dans une affaire présumée de blanchiment d'argent. C'est la découverte de 4 valises remplies de liquide chez un opérateur touristique qui a orienté les enquêteurs vers l'ex-dirigeant qui sera présenté aujourd'hui à un juge. Le dossier de RFI Matin nous emmène maintenant à Madagascar, la grande île où a été lancé la semaine dernière le programme Riz Hybride, inauguration en grande pompe par le président de la République de ce projet qui doit accélérer la transformation agricole du pays. 1400 agriculteurs se sont vus distribuer une variété hybride chinoise et des engrais chimiques. Et si le gouvernement assure que l'avenir du pays passe par ces nouvelles semences, les paysans, eux, demandent à être convaincus. Sarah Teto.
Grâce à ces semences hybrides importées, l'État ambitionne d'augmenter le rendement de la production rizicole et atteindre, d'ici la fin de l'année, 1 million de tonnes de paddy additionnelles sur les 4 millions déjà produits. Des perspectives réjouissantes dont se félicite la secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire, Tahin Razanamaef.
Pour nous, le riz hybride est la solution adéquate et pérenne pour que Madagascar puisse atteindre l'autosuffisance en riz pour cette année 2025. Et puis nous allons pouvoir exporter le riz courant de l'année 2027 au niveau de l'océan Indien et dans certains pays africains francophones. Et nous allons aussi demander aux investisseurs, que ce soit locaux et ou internationaux, de venir investir à Madagascar en termes d'agriculture.
Les autorités estiment que les semences couplées aux engrais nécessaires permettront de tripler les rendements habituels. Seulement, tous les agriculteurs ne sont pas convaincus par les merveilles annoncées comme Hortensia, rizicultrice dans le Ménabé.
Les inconvénients du riz hybride, c'est que ça nécessite énormément d'engrais. Et de deux, je ne peux pas réutiliser ma récolte pour me servir de semences d'une année à l'autre. Ça nécessite de nouvelles semences chaque année. Probablement, j'essaierai le riz hybride une fois que j'aurai assuré le système d'irrigation, récupération des eaux usées par les engrais. Pour le moment, je préfère faire simple.
Le gouvernement dit comprendre la réticence de ses agriculteurs face au changement et assure que la production de semences hybrides sera lancée dans la région Ménabé avant ce 15 février pour rester autonome dans la gestion des semences. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et ce scepticisme est partagé par des experts du domaine, à commencer par Niacine Ambitsou Mazezamana, le secrétaire exécutif de la plateforme de concertation pour le riz à Madagascar. Au micro de Sarah Teto, l'agronome évoque des zones d'ombre autour de cette décision d'importer massivement des semences de Chine et craint la création d'une situation de dépendance. On l'écoute.
Bonne nouvelle parce que si ça marche bien, comme on dit tout le temps donc dans toutes les communications, il va augmenter la disponibilité physique. Mais mauvaise nouvelle parce que ce n'est pas toutes les catégories de producteurs à Madagascar qu'on a la capacité de maîtriser le hybride. Par exemple, en termes de besoins en intrants, les disponibilités de l'eau, il y a des conditions minimum qu'on doit respecter pour que les hybrides apportent vraiment de la solution. Non à court terme, mais c'est plutôt à moyen terme et durable. Aussi, par rapport aux semences étrangères, il faut veiller à la dépendance à cette semence du riz hybride. Pour l'instant, il y a beaucoup de flou dans le chaîne des valeurs entre guillemets du riz hybride. On ne sait pas trop qui fait quoi, on ne connaît pas jusqu'à où l'appui que l'État va apporter à tous les acteurs intéressés. Madagascar doit voir quel est donc son intérêt de cette collaboration-là avec la Chine pour le développement du pays.
Niacine Ambitsou Mazezamana, secrétaire exécutif de la plateforme de concertation pour le riz à Madagascar. Le rôle de cette plateforme qui regroupe tous les acteurs du secteur est de renforcer la gouvernance dans la filière du riz. Voilà le dossier de RFI Matin et c'est signé Sarah Teto. Il vient clôturer cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous